Chapitre 51. Les ténèbres. Un hurlement. Henri ne voit rien. Il tourne sur lui-même, complètement affolé. La menace est toute proche. Il la sent. Le garçon veut fuir, mais toutes les portes qu'il ouvre donnent sur des murs. Le voilà pris au piège. La chose ne va pas tarder à le rattraper. Il entend déjà son souffle. Quand il se retourne, elle est sur lui. Sa gueule immense s'ouvre. Henri crie et se réveille en sueur. Un cauchemar, ce n'est qu'un cauchemar. À son chevet, Vincent murmure quelques paroles réconfortantes. Le clou, hagard, les entend à peine. Pour se rassurer, il attrape sa main et la serre fort. Sa respiration reprend peu à peu un rythme normal. Après avoir remonté l'édredon sur ses épaules, Vincent patiente quelques minutes, veillant à ce qu'Henri reste bien couvert. Même si seule sa tête dépasse encore, il grelotte toujours. Vincent pose sa paume sur son front brûlant. La fièvre est là, à n'en pas douter. Depuis leur retour, le gamin ne parvient pas à se réchauffer. Une friction à l'eau chaude et un bol de bouillon avalé près du fourneau n'ont pas mis fin à ses crises de frissons. Il en sera sans doute quitte pour une bonne crève, mais ce n'est pas si grave, surtout en comparaison de ce qu'il risquait encore quelques heures plus tôt. Heureusement, il est désormais en sécurité. Lorsque, au petit matin, les deux compères se sont enfin échappés de leur enfer souterrain, ils sont rentrés ventre à terre, malgré la fatigue, malgré les risques, comme des loups épuisés, incapables du moindre repos avant d'avoir regagné leur tanière. Après avoir gratté des heures dans le noir, décelant pierre après pierre, ils ont fini par ouvrir un passage dans le mur, débouchant dans les égouts. Aussi répugnante fut l'odeur qui leur a sauté au nez, elle avait pour eux le doux parfum de la liberté. Revigorés par la perspective de trouver enfin une issue, il ne leur a pas fallu longtemps, même à tâtons, pour localiser l'échelle de fer conduisant à une bouche et gagner la surface. L'air frais et le familier décor citadin produisirent un effet salvateur. Ils se sont tout à coup sentis comme des évadés se délectant de leur liberté retrouvée. Après des heures à se demander s'ils allaient survivre, l'air du dehors leur a offert l'occasion de se sentir vivants comme jamais auparavant. Ce qui leur paraissait banal la veille a pris soudain des allures extraordinaires. Une rue dans le soleil levant, le passage d'une charrette, le chant d'un coq, les jeux d'une lumière naissante dans le feuillage des arbres. À la première fontaine, Cavel et le clou se sont lavés pour essayer de se débarrasser des boues dégoûtantes et de l'odeur pestilentielle qui leur collait à la peau. Dans le petit matin frais, ils se sont copieusement aspergés d'eau glaciale, au milieu des chevaux laissés là à se désaltérer avant leur labeur. Ils étaient si sales que même les animaux se tenaient à l'écart au point d'avoir l'air de les mépriser. Trempés jusqu'aux os, tremblant de froid, les deux rescapés ont rallié Montmartre aussi vite que le reste de leurs forces le permettait. Une fois rentrés, il fallut expliquer aux autres, inquiets et sur le pied de guerre. Jamais leurs compagnons n'auraient pu imaginer ce qu'ils avaient enduré. Trop heureux de les revoir vivants, ils n'ont pas songé un instant à sermonner Henri parce qu'il avait imprudemment suivi Vincent, ni à reprocher à leur chef de s'être aventuré à la merci de Minguier sans précaution. À présent, le calme est enfin revenu, mais Vincent ne peut se résoudre à quitter le clou. Il semble épuisé. Ses yeux cernés s'accrochent à Vincent. Au pied du lit, celui-ci contemple ce qu'il reste de la lame de son couteau, usée jusqu'au manche. Henri s'en amuse. Il n'est plus bon à rien. À rien du tout, sourit Vincent. Peu importe, j'en achèterai un autre. Puis-je le garder en souvenir ? Vincent le replie et le dépose sur la table de nuit. Il est à toi. Il s'accroupit auprès du clou. Il faut vraiment que tu dormes à présent. Tu dois reprendre tes forces. Ne t'inquiète de rien. Nous montons la garde. Alors qu'il s'apprête à le laisser, le clou l'interpelle. Vincent ! Le chef pivote. Les yeux brillants de fièvre, Henri lui déclare d'une voix qui laisse poindre l'émotion. Merci de m'avoir sauvé la vie. Vincent lui fait un clin d'œil. Ne me remercie pas. Je n'aurais pas pu ouvrir ce passage sans ton aide. Si tu n'avais pas été là, je serais sans doute mort à l'heure qu'il est. Tu avais bien raison.
La tentative de plus a été la bonne.
Souviens-t'en lorsqu'il t'arrivera de ne plus y croire.
Tu sais, ajoute le garçon tout doucement, n'en parle pas aux autres, mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand ils m'ont attrapé, jeté dans ce cachot, et ces affreux hurlements devant, j'ai bien cru que ma dernière heure était venue.
Par bonheur, ce matin, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Vincent, tu as déjà eu l'impression que tu allais mourir ?
Vincent hésite. J'ai déjà vu la mort de près, mais elle n'était pas là pour moi.
On ne se sent plus pareil après, pas vrai ?
Pour sûr. Et maintenant, dors. Henri baisse les paupières et se blottit dans son oreiller. Vincent demeure immobile, pensif, à contempler ses traits enfin apaisés. Le garçon dit vrai. On n'est plus jamais le même après avoir frôlé la mort. Reste à savoir si l'on continue en étant plus fort parce que l'on a survécu, ou plus fragile parce que l'on sait qu'elle finira par revenir. Le clou s'est enfin endormi. Sa main pend, inerte, sur le côté du lit. Vincent la pose délicatement sous l'édredon. Voilà bien longtemps que lui-même n'est plus capable de trouver le sommeil aussi vite. Alors qu'il quitte la chambre, un coup de feu retentit. Il jurerait que cela vient de derrière la maison.